m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et oui, vous êtes sur Radio Courtoisie. Bienvenue à tous dans Restons Courtois. Il y a en ce moment, évidemment, l'affaire Quentin, la manière dont l'extrême-gauche, je ne peux pas dire a révélé son véritable visage, puisque ça fait assez longtemps qu'on sait que l'extrême-gauche, quand elle ne tue pas, célèbre les assassins en France et ailleurs, quand elle n'est pas en train de priser des révolutionnaires, en train d'embastiller, de terroriser, de massacrer des populations, c'est qu'elle-même est à la manœuvre en France ou ailleurs, la bande à Bader ou Action Directe. Donc l'extrême-gauche est violente, on le sait, l'extrême-gauche est haineuse, on le sait, voilà. Et on en parlera tout à l'heure avec Mathieu Sassy et avec Olivier Frarjac. Mathieu Sassy, qui est un avocat courageux, qui défend depuis des années les militants nationalistes ou identitaires, lâchement accusés par la gauche d'actes qu'ils n'ont pas commis, et le plus souvent victimes de la gauche sans que la justice ne s'en occupe. Et Olivier Frarjac, rédacteur en chef de Liberté Politique, qui lui aussi, avec son observatoire de la violence politique et sa revue, qui a consacré un hors-série à la violence politique, est un spécialiste de la violence d'extrême-gauche, chose qui a l'air d'être découverte absolument par la classe politique et le service public, puisque Mathieu Slama expliquait encore, il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire aujourd'hui ou hier, sur France Télévisions, que bien sûr, il n'y a pas de violence à l'extrême-gauche, et même que ce qui définit l'extrême-gauche, c'est l'amour, la paix et la joie. Avant de plonger dans l'affaire Quentin, on va prendre une grande bouffée d'air, justement, avec des gens qui ne sont pas de gauche, des gens qui sont de droite, des gens qui sont courageux, et notamment Céline Dupuis-Lagarde, qui mène une liste du nom de la droite à Paris, dans le 15e arrondissement. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, alors que la base de tous les partis réclame cette union, et que, bien sûr, les partis eux-mêmes, en tout cas les états-majors, ont un peu de mal à l'idée qu'il puisse y exister un peuple de droite. Eh bien, dans les circonscriptions, les gens réussissent à réaliser, pour ces municipales, cette union. Bonjour Céline Dupuis-Lagarde.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Mais merci de l'avoir accepté. Donc vous êtes candidate tête de liste d'Union et de Rassemblement dans le 15e arrondissement de Paris, avec le soutien de Marine Le Pen, Éric Ciotti, Jordan Bardella et Marion Maréchal. Vous avez réalisé quasiment le grand chelem. Et il y a encore deux autres partis qui vous soutiennent, puisque évidemment on aura reconnu Identité et Liberté de Marion Maréchal, l'UDR d'Éric Ciotti, le Rassemblement National de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il y a aussi l'Avenir Français et la Droite Populaire.
Tout à fait, et c'est en fait sur tous les candidats d'arrondissement et aussi sur notre candidat tête de liste Thierry Mariani. Nous faisons une union et un rassemblement de toutes les droites et pour tous les Parisiens et au service des Parisiens.
Toutes les droites, tous les talents, comme on dit, sur Radio Courtoisie.
Et je voudrais réagir à ce que vous parliez justement aussi sur la violence politique, parce que nous-mêmes, nous avons eu un militant qui a été agressé à la porte de Pantin au mois de décembre, lors d'un tractage à la porte de Pantin, alors qu'il y avait un concert de Médine au Zénith. Notre militant, Jean-Pierre, 78 ans, s'est retrouvé hospitalisé et l'agresseur a été identifié. Et comme par hasard, on a envie de dire encore une fois, en fait, c'est un doctorant et qui est toujours chargé de TD aujourd'hui à l'université de Nanterre et depuis, pas de nouvelles.
C'est-à-dire, là, c'est parce que j'en parlais ce matin justement dans une autre émission, on a un doctorant qui agresse qui effectivement se retrouve, ce doctorant s'appelle Mathias Boussmar, il n'a pas encore été inquiété par la justice, c'est-à-dire le 18 décembre, Jean-Pierre se fait attaquer. Il est hospitalisé plusieurs semaines on connaît la personne, donc la justice est au courant, il y a une plainte qui a été déposée.
Voilà. Nous avons déposé plainte, il y a des vidéos, il y a des témoignages.
On est le mardi 17 février et Mathias Boussmar continue à enseigner à Nanterre.
Tout à fait.
Tranquillo.
Et je pense que ce qui s'est passé à Lyon révèle de toute façon qu'il y a un problème dans nos universités où il n'y a plus le droit à la controverse, à la dispute qui était l'origine même de l'université au Moyen-Âge et qu'aujourd'hui, ces autoproclamés antifas sont les vrais fascistes d'aujourd'hui et ils sont soutenus par, il faut bien le dire, la France insoumise et d'autres partis à gauche.
Et puis surtout, on a l'impression que la justice est plus lente dans le cas de Mathias Boussemard que dans le cas d'autres personnes. J'apprenais tout à l'heure qu'un un homme avait proféré des menaces de mort à l'encontre des candidats de gauche à la mairie suite au meurtre de Quentin et il est en garde à vue.
Oui, tout.
Donc, dans un cas, il y a un militant qui se fait effectivement rouer de coups et envoyer à l'hôpital. Et vous me pardonnerez, mais enfin un vieillard, 77 ans, je sais bien qu'on est jeune de plus en plus longtemps, mais comme à 77 ans, il était courageux de tracter, eh bien, son agresseur, lui, pas un poil de garde à vous, pas une minute, la justice ne l'a inquiété. Et la justice continue à considérer que Mathias Boussemard est un homme respectable puisqu'il enseigne. Il enseigne à Nanterre. Je ne sais plus ce qu'il enseigne, d'ailleurs. Forcément, j'espère que c'est...
L'histoire du droit, je
l'histoire
crois, de mémoire.
Droit,
en plus.
C'est
en
parfait.
Plus.
C'est parfait. Il enseigne l'histoire du droit. Et ben, il est en train d'ouvrir un nouveau chapitre. On reparlera de Quentin et de la violence politique. Mais merci d'avoir signalé que, contrairement à ce que croient les gens, en fait... être en campagne municipale, ça veut dire aller en contact des gens, ça veut dire tracter, ça veut dire afficher, et donc ça veut dire être en butte aux hostilités de la gauche. Indépendamment de ces hostilités, comment se passe votre campagne? Est-ce que les habitants du 15e arrondissement sont heureux d'entendre une voix un peu différente?
Sur le 15e, je dois vous dire qu'effectivement, on est moins sujet à ce genre d'attaque, quoique on a aussi des militants quand même du RNJ qui ont été attaqués à Ballard par encore là des auto-nommés Antifa. Mais pour continuer là-dessus, il y a deux jours, malgré tout, nous avons des militants qui ont été agressés dans le 20e et dans le 12e. Il faut savoir que dans le 20e, il y a un groupuscule antifa qui s'est donné pour mission pendant l'élection municipale de nous empêcher de militer partout et de tracter. Et c'est vraiment inadmissible, quoi. C'est vraiment la démocratie, l'antidémocratie absolue de leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils veulent nous empêcher de militer et d'être des citoyens démocrates dans la rue et dans tout, presque dans tous les arrondissements, il faut le dire. Hein.
Alors concrètement, ça veut dire que chaque fois qu'un maire de la liste dirigée par Thierry Mariani, un candidat à la mairie des listes dirigées par Thierry Mariani se retrouve sur un marché ou à faire je ne sais quelle action militante, donc tracter, afficher, ouvrir une permanence, essayer d'avoir une réunion publique. Dans le 20e et dans le 12e, les Antifa donc attaquent vos permanences, attaquent vos tracteurs, déchirent vos affiches.
Exactement. Ils ont créé des boucles, que ce soit sur WhatsApp, Telegram, Signal, etc. Ils ont créé des boucles et dès qu'une des personnes repère qu'il y a une de nos actions quelque part, ils envoient des messages et ils se regroupent et ils viennent attaquer nos militants. Et
alors,
nos candidats.
Attaquer militants et candidats, ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire les bousculer, les intimider, ça peut souvent arracher les tracts, les jeter par terre. Ça
les
peut
insulter.
Les insulter, évidemment. On a toutes les insultes de fachos, nazis, et on en passe, c'est des meilleurs. C'est-à-dire qu'on se demande, la plupart, ce sont des jeunes étudiants, on se demande ce qu'ils ont étudié en histoire pour méconnaître à ce point ce qu'est le nazisme, le fascisme. Et aujourd'hui, ce sont eux vraiment qui font, avec leur violence, acte de fascisme.
Et même quand on voit Raphaël Arnaud et un Hitlerjungen, on a l'impression que c'est la même coupe. Enfin bon, voilà, ça ne présage pas évidemment des opinions de Raphaël Arnaud, qui sont certainement respectables, mais il a de curieux modèles chevelus. Est-ce que vous avez évidemment porté plainte? Est-ce qu'une protection policière vous a été accordée? Comment réagit la municipalité, la police, la justice?
La police nous accueille bien évidemment à chaque fois, on dépose plainte à chaque fois, on fait des signalements, on dépose plainte. Nous, il faut savoir qu'on a un service, effectivement, quand on tient nos réunions publiques aussi, on a un service de DPS, à chaque fois qu'on est obligé de...
DPS.
C'est département protection sécurité, qui est le département qui est mené par Jean-Pierre, un autre Jean-Pierre à sa tête du Rassemblement national. Et on est obligé, en fait, ce qui est dingue aujourd'hui en démocratie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer nos opinions tranquillement en tant que citoyen, en tant que candidat, comme tout le monde, sous prétexte qu'il y a quelques personnes, des nervis, qui se déclarent eux-mêmes antifascistes alors que ce sont les vrais fascistes, qui nous attaquent à chaque fois qu'on fait une action.
Alors, et une fois plus, quand vous parlez d'action, il s'agit de tracter. Il ne s'agit pas d'aller attaquer une permanence LFI, puisque LFI se plaint d'être la victime d'attaques, comme si eux-mêmes n'avaient jamais saccagé les permanences des autres, les avaient jamais aspergé de peinture, tagué, et même, sans parler d'action encore plus rude et encore plus malfaisante. Dans la campagne que vous suivez aux côtés de Thierry Mariani, est-ce que c'est véritablement la difficulté principale de dire le fait de ne pas pouvoir aller à la rencontre du peuple ?
Non, on est tous les jours, quoi qu'il arrive, on est tous les jours sur le terrain, on traque depuis toujours sur Paris, rien ne nous empêchera d'aller dans chaque arrondissement, nos responsables d'arrondissement, nos candidats tête de liste dans chaque arrondissement, tractent, font du boitage, on ne lâchera jamais le terrain de toute façon, même face à des personnes violentes, parce qu'on estime que c'est l'exercice de la juste démocratie et que nous avons le droit d'exprimer nos idées et d'aller concourir à la citoyenneté et à l'exercice démocratique.
Alors, on a parlé à deux ou trois reprises de Thierry Mariani, puisque, évidemment, vous, c'est le 15e arrondissement, mais lui, c'est pour tout Paris. Pardonnez-moi, mais il n'a pas l'air de partir favori. Donc, on sent qu'il y a devant lui deux ou trois autres candidats de la vraie droite ou de la fausse droite. Pour ce qui est de la fausse droite, je parle évidemment plus de Rachida Dati. Le sentiment que le Rassemblement national, pour le moment, se dit que Paris, évidemment, est une ville emblématique, mais que c'est un morceau qui ne va pas être emporté cette année.
Vous savez, à la dernière municipale, on a fait 1,5. En général, on fait autour de 6-7 sur les autres élections. Ça se module un peu. Il y a une petite dynamique aux dernières législatives. D'ailleurs, pour la première fois, à la dernière législative, qui était une législative anticipée, toutes les candidates et tous les candidats ont fait plus de 5% dans toutes les circonscriptions parisiennes.
Donc voilà,
c'était la première fois.
Le Rassemblement national gagne du terrain à Paris aussi.
Oui, mais ça reste, il faut bien le dire, une terre de mission, nous le savons tous. On ambitionne malgré tout, si on arrive à aller convaincre les quelques 140 000 électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, on pourrait effectivement imaginer qu'on fasse plus que 10% et accéder au Conseil de Paris. C'est très difficile, nous le savons, nous sommes tous les candidats et tous les militants sont sur le terrain pour essayer de convaincre et de dire que c'est vraiment important qu'on soit au Conseil de Paris parce qu'on sera la vigie en fait. On sait très bien, ne nous l'aurons pas, qu'on ne va pas gagner la ville de Paris, mais on sera la vigie. C'est-à-dire que c'est très important parce que comme vous le disiez, cette fausse droite, si elle remporte la mairie, ce sera mieux que la mauvaise
que
gauche,
la vraie gauche, oui.
Certainement. Mais c'est important qu'une fois aux affaires et en responsabilité, il y ait comme ça le petit Jiminy Cricket qui dit attention là, attention aux dérives, parce que on le sait, le pouvoir a ceci qu'il corrompt un peu les personnes qui l'exercent quand il n'y a pas de garde-fou.
Et d'autant plus que, évidemment, non pas en matière de corruption active, mais en matière de divagation totale, Anne Hidalgo a placé la barre très haut, avec notamment une espèce d'insouciance financière absolument inouïe et inconsidérée.
Ah oui, il y a une des premières choses, de toute façon, si on veut redonner un avenir à Paris, c'est vraiment de faire un audit sur les comptes publics, parce qu'en plus, il y a eu le rapport de la Cour des comptes et de la Cour des comptes régionales qui ont montré aussi toutes les astuces pour essayer de présenter une comptabilité qui soit un peu pérenne comme ça. Mais aujourd'hui, Paris est endetté. Chaque Parisien est vraiment surendetté à cause, effectivement, de toutes ces gabegies financières, ces dépenses inconsidérées, les loyers qui ont été capitalisés, etc., etc. Les aberrations d'aller acheter du HLM à plus de 10 000 euros du mètre carré avec en plus du monument historique, c'est une totale aberration.
Ça, c'est par exemple les opérations du côté de la place des Vosges, etc.
Exactement.
Où pour favoriser la mixité sociale, on achète à prix d'or des appartements dont on ne sait pas d'ailleurs à qui ils vont être attribués quand on voit ceux qui occupent en ce moment les HLM de la ville de Paris. Il y a quelques inquiétudes à avoir.
D'autant qu'au niveau du logement social, effectivement, ce qu'il y a à revoir déjà, nous sommes au niveau de la loi, c'est-à-dire qu'il y a 25% de logements sociaux à Paris, avec une grande disparité entre les arrondissements. Il y en a près de 50%, 46, je crois, de mémoire, dans le 19e arrondissement. Il y en a plutôt autour de entre 15 et 20 dans le 15e, par exemple, moins de 10 dans le 7e. Donc, il y a peut-être un rééquilibrage à penser. Après, il faut savoir que Paris... et je le sais d'autant plus parce que mes grands-parents habitaient dans les HBM, justement ces habitations à loyer modéré en briques rouges qui font toute la petite ceinture parisienne, que ce soit à la porte Brancion ou à la porte de Vanves. Mes grands-parents ont vécu là, ma mère est née là, j'ai une grande partie de ma famille maternelle qui a grandi dans ces habitations, dont je me souviens bien parce que j'allais chez mes grands-parents petites. Et que le logement social à Paris a toujours été dans cette petite ceinture là. Après, je pense qu'il faudrait surtout aujourd'hui se concentrer, parce que quand on voit l'état de certains logements sociaux, il est terrifique. Donc il faudrait plutôt se concentrer aujourd'hui à réhabiliter ces logements sociaux, à prioriser pour les travailleurs parisiens, que ce soit les policiers, les agents municipaux, les infirmières, parce qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui à se loger. Et quand il y a des personnes qui travaillent à Paris, mais qui sont obligées de faire une heure et demie de trajet matin et soir parce que les prix des loyers sont inabordables, on considère qu'il faut prioriser le logement social pour les travailleurs parisiens. D'autant que dans certaines cités, par exemple, dans le 15e, il y a la cité des Périchaux, qui est une cité qui est maintenant en quartier prioritaire de la ville, parce qu'il y a beaucoup de trafic de drogue, et les dealers ont pris un peu la place, et aujourd'hui, il y a des habitants qui fuient, en fait, qui ont peur. Donc, il y a vraiment la nécessité de mettre un terme à toutes ces dérapages qui font aussi les trafics, etc., les squats de bas d'immeubles, de cours d'immeubles, etc., d'escaliers, qui dégradent en fait les logements sociaux et les habitations.
Et c'est tout à fait intéressant, et vous avez raison de citer cette cité des Périchaux. On a l'impression, quand on parle des quartiers perdus de la République, qu'à chaque fois il s'agit de petits morceaux de villes de province, de périphérie de métropole comme Lyon, Marseille. Non, pas du tout. À l'intérieur même de Paris, il y a des quartiers perdus. En fait, à l'intérieur, et on l'a vu d'ailleurs au moment des émeutes de 2022 ou 2023, le 15e était l'un des arrondissements de Paris où il y a eu les violences les plus spectaculaires à l'échelle de Paris, avec des portes de bâtiments qui étaient enfoncées, des personnes qui essayaient de rentrer dans le premier étage des immeubles. Et autrement dit, ces émeutes étaient particulièrement violentes, et la mairie de Paris a comme d'habitude jeté un voile pudique sur ce qui se passe. Comment expliquer qu'on ait pu laisser se dégrader la sécurité du 15e arrondissement à ce point-là ?
Je pense qu'il manque d'une politique qui reposerait sur trois piliers, à mon avis, qui est effectivement la prévention, parce qu'il y a un vrai souci aujourd'hui sur la drogue, on le voit sur la jeunesse, c'est-à-dire que beaucoup de gens, et le 15e est un grand lieu de trafic de drogue aujourd'hui, que ce soit au Périchaud, à Falguière, même dans le parc Georges Brassens ou à Ballard, c'est vraiment un lieu de trafic, et on voit qu'aujourd'hui, la consommation de drogue chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes, d'ailleurs chez les adultes, la cocaïne par exemple, a explosé. C'est-à-dire que la cocaïne est prise comme quelque chose de récréatif, mais c'est pas du tout récréatif, c'est destructeur. Il faut savoir que le trafic de drogue génère de la violence et des victimes, que ça soit d'ailleurs chez les trafiquants eux-mêmes. C'est-à-dire que les jeunes qui sont embauchés et détournés du circuit éducatif, etc., pour être chouf, etc. Et on empêche comme ça, on empêche l'avenir de la jeunesse de se construire, que ça soit en étant revendeur ou en étant consommateur.
Et effectivement, on leur apprend qu'il y a un argent facile et surtout un irrespect de la loi. Et là, comme ailleurs, il y a un problème de sécurité. Quand on lit le tract que vous avez rédigé pour le 15e arrondissement, à côté de ça, n'est pas le pire des arrondissements parisiens. Et même au contraire, il y a des endroits où la moyenne bourgeoisie est heureuse d'habiter avec effectivement des magasins bien achalandés, comme on disait avant, c'est-à-dire avec une clientèle nombreuse et aux poches pleines. Et là, vous nous dites, mais non, pas du tout, en fait. Il y a, y compris dans le 15e arrondissement, des choses stupéfiantes. Et à juste titre, 16 797 crimes, délits et actes de délinquance, 6% de hausse du trafic de stupéfiants, 12% pour les violences sexuelles. Et dire, vous dénoncez la mairie de Paris, alors à un niveau général, mais qui est pour vous synonyme d'insécurité, d'insalubrité, mais même, on s'en rend compte, de pédocriminalité. C'est-à-dire, sous Anne Hidalgo, on a réussi à faire en sorte que tout ce qui est périscolaire et peut-être scolaire est en fait gangrené par les crimes sexuels.
Il y a un total laxisme aujourd'hui, mais qui est effectivement idéologique, on le voit à tous les niveaux, que ce soit la gauche, mais même certainement la fausse droite, il y a un laxisme sur tous les crimes et délits, c'est pour ça que ça devient exponentiel, il y a un laxisme dans l'éducation, on le voit aussi dans le périscolaire, dans le recrutement, et je le dis d'autant plus que moi-même, quand j'étais jeune étudiante, je travaillais, et j'ai travaillé comme animatrice, puis directrice, puis formatrice d'animateurs, et j'ai même ouvert un centre d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis, parce que j'ai trouvé ça assez passionnant, et justement pour sortir les jeunes de la rue et de la délinquance. Il y a un vrai travail de terrain à faire, et il y a un vrai travail de professionnalisation de l'animation et du périscolaire. Et pour ça, il faut dire que M. Grégoire, qui a été en charge de ça pendant un certain temps à la mairie de Paris, est en partie responsable de ce recrutement de vacataires qui se fait dans un peu n'importe comment et à la va-vite. Une des solutions que nous on propose, c'est déjà de revoir aussi l'emploi du temps de la semaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des demi-après-midi et qui fait que le périscolaire, comme ça, est un peu bancal. Et, il faut professionnaliser. Moi, je l'avais fait à l'époque au Pré-Saint-Gervais, face à Claude Barthelone. Je m'étais battue contre Claude Barthelone, député maire
socialiste.
Et on avait gagné à avoir un vrai statut pour les animateurs, où ils étaient annualisés, ils avaient un vrai travail annualisé à plein temps, et une vraie reconnaissance sociale et des vraies formations. Et donc, c'est possible. Nous l'avons fait, moi, à l'époque, je l'avais fait au Pré-Saint-Gervais. C'est tout à fait possible de le faire sur Paris. Et c'est possible de le faire d'autant plus si on revient à la semaine de 4 jours qu'on propose, nous, où l'école va jusqu'à 16h30, et de 16h30 à 17h30, on aurait des activités périscolaires, artistiques, culturelles, de qualité, après de 17h30 à 18h30, une heure d'études dirigée, qui existait, moi, quand j'étais gamine, à l'école, et d'ailleurs, j'y restais, et c'était... Je trouve très très bien de rentrer chez soi, de plus avoir à faire ses devoirs. En fait, on rentrait à la maison le soir, et ben on était avec sa famille et on pouvait jouer, discuter, etc., se détendre. Et les devoirs étaient faits pendant l'étude dirigée. Et on peut tout à fait remettre une étude dirigée de qualité tous les soirs dans chaque école.
Ça, ce type de proposition, vous les portez, vous, pour le 15e arrondissement, mais vous les, en fait, c'est toute l'idée de cette liste d'Union de la droite, de porter ces propositions qui paraissent étonnantes, mais qui sont fondamentalement de bon sens. Et surtout, vous avez raison de souligner, éprouver. C'est-à-dire, on l'a fait ailleurs, Paris peut le faire.
Tout à fait, on le propose, c'est dans... pour tout Paris, pour tous les arrondissements, et c'est porté par la liste menée par Thierry Mariani pour le Conseil de Paris, on propose de réévaluer et de réorienter effectivement toute cette carte scolaire et tout cet emploi du temps pour qu'ils deviennent efficients, efficaces, et ou pour que les enfants et que le mercredi, qui aujourd'hui est aussi une demi-journée, qui fait que c'est une journée un peu bâtarde, alors qu'un vrai mercredi d'activité permet de faire vraiment des belles choses, et je le sais parce que effectivement je l'ai éprouvé pendant plusieurs années en dirigeant moi-même un centre.
Alors, à côté de l'idée de dénoncer l'insécurité, l'insalubrité, etc., on voit que vous êtes force de proposition, et je trouve que c'est agréable dans une campagne de ne pas avoir uniquement la critique du bilan, et qu'au contraire, voilà, quand on vous lit, sécurité, attractivité, responsabilité, alors, bien sûr, il y a tout ce qu'on doit redresser qui a été abîmé, expulsion des délinquants et trafiquants des logements sociaux, par exemple, une mesure de bon sens qui est possible, qui est légale, qui n'est pas mise en place, brigade spécialisée de policiers municipaux formés et armés, mais aussi, voilà, vous nous dites, planification cohérente des travaux de voirie et valorisation de notre patrimoine architectural et mobilier. Donc d'un côté, on nettoie, mais de l'autre côté, on propose. Quelle est la partie, si j'ose dire, dont vous aimeriez le plus qu'elle soit réalisée de tout ce que votre programme comprend de mesures incitatives et joyeuses, pour parler comme Sarah Knafo?
J'ai envie de dire que c'est le quotidien des Parisiens. Et moi, en tant que Parisienne native, ça fait 56 ans que je vis à Paris. Effectivement, j'ai envie, et ce slogan qui a été trouvé par Jordan Bardella, « Retrouvons Paris », c'est effectivement, moi j'ai envie de, et c'est pas une nostalgie, il faut bien comprendre, mais de retrouver Paris dans sa grandeur, dans tout ce qui portait d'art de vivre, c'est-à-dire que la Parisienne avait une image, et je le dis d'autant plus que ma mère, ayant épousé mon père qui était picard, quand elle allait en Picardie, on disait « Ah, voilà la Parisienne !» Parce qu'il y avait quelque chose, on reconnaissait partout, effectivement, la Parisienne. Il y a cette chose-là, et puis il y a le caractère, moi ce que j'aime dans Paris, ce que j'ai toujours aimé, et que ce que tout le monde aime à travers le monde, c'est l'identité parisienne. C'est-à-dire que son art de vivre, mais son architecture, son mobilier urbain, qui a été totalement détruit pour on ne sait quelle raison par Anne Hidalgo, qu'on retrouve, qu'on ne végétalise pas, en plus, elle dit qu'elle végétalise, mais pas du tout. Quand on fait le bilan, en fait, la ville est de plus en plus bétonnée, et il y a de plus en plus de granit. On le voit sur les places, les grandes places qui ont coûté des millions à faire. En fait, la place de la République était bien plus verte, moi, du temps où je l'ai connue, et même où il y avait les voitures qui circulaient. Elle était bien plus verte. Il y avait deux petits parcs avec des grands arbres magnifiques qui ont été cassés, qui ont été... Donc, il y a vraiment retrouvé ce Paris qui soit un Paris qui soit là pour les Parisiens et pas simplement un Paris aussi. Je pense qu'il y a un problème sur tourisme quand même. On le voit aussi sur le manque de logement avec les Airbnb parce que la spéculation, c'est plus pratique aujourd'hui. Tellement il y a de normes et de contraintes à louer un appartement. Et puisque aujourd'hui, les squatteurs ont plus de droits que les propriétaires, les bailleurs ou même que les locataires, parce qu'on peut être squatté même quand on est locataire en plus. Mais il faut retrouver un peu de bon sens, en fait, tout simplement. Retrouver le bon sens et redonner cette image de Paris qui est une image d'un Paris qui soit dynamique, populaire, artistique, culturel, et un Paris où tout le monde peut vivre en bon accord, et pas simplement un Paris qui est divisé, qui est malmené, qui est saccagé par les instances et par divers groupuscules.
Alors, évidemment, vous proposez, bien sûr, d'expulser systématiquement les campements sauvages, les vendeurs à la sauvette, tout ce qui est mendiant agressif. Vous proposez de fermer les salles de shoot, mais au contraire, d'ouvrir un centre de soins pour les toxicomanes, donc avec injonction de soins. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, une fois plus, de criminaliser celui qui est abîmé dans la drogue, mais il s'agit non plus de faire en sorte que la salle de shoot devienne un repère de revendeurs et finisse par s'étendre comme un chancre sur tout le quartier. Vous proposez, évidemment, d'avoir... un accès, vous en parliez tout à l'heure, des travailleurs parisiens au logement social, mais vous refusez aussi cette manière si gauchiste qu'on a une fois qu'un équipement a été mis en place, par exemple les gymnases, eh bien systématiquement, comme on n'a pas une véritable politique sociale, comme il n'y a pas assez de places d'accueil pour les mendiants et les vagabonds, eh bien on réquisitionne les gymnases pour y coller tous ceux qu'on a prétendument sortis de la rue avant de les y renvoyer. Là, il y a une violence en fait quotidienne qui est faite aux Parisiens.
Et d'autant que dans le 15e, il y a eu beaucoup de réquisitions de gymnases, hein, parce que Madame Hidalgo s'est fait un malin plaisir à réquisitionner principalement les gymnases du 15e et du 16e arrondissement.
Parce que ce sont des quartiers, entre guillemets, de droite.
Exactement. Et C'est surtout, ça a été surtout pour héberger des migrants, en fait, pas du tout pour héberger des sans-domicile. C'était pour héberger des migrants au détriment des petits Parisiens qui font du sport, des écoles, des collèges qui vont dans les gymnases, des associations sportives. Et effectivement, nous, on estime que la ville de Paris n'a pas à remplacer les erreurs de l'État. C'est-à-dire que c'est à l'État de se charger de la régulation des migrations. On sait qu'il ne le fait pas et qu'il le fait très mal, mais ce n'est pas, en tout cas, à la ville et encore moins aux Parisiens et aux associations sportives, aux écoles, aux collèges, aux lycées qui vont dans les gymnases, de pallier à ces déficiences-là.
Alors, vous ne voulez pas qu'il pallie. Alors, vous avez des idées un tout petit peu plus baroques, parce que là, on a parlé du sérieux, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment à la fois amusé et ravi d'une certaine manière. Vous prévoyez des brigades. Alors, on se dit, tiens, brigade, ça va être encore des flics. Non, pas du tout. Des brigades d'accordéanistes et d'organistes de barbarie pour un Paris en chanson. Alors, ça, je trouve ça tout à fait aimable. Comment vous est venue l'idée des brigades d'accordéonistes?
Alors, le mot brigade, on l'emploie aussi en cuisine, vous savez, en restauration, donc c'est pas forcément policier et sécuritaire. Là encore, c'est un peu une histoire personnelle. Moi, ma mère jouait de l'accordéon, et donc moi, je me souviens, gamine, qu'il y avait des joueurs d'accordéon sur quasiment, pas toutes les places, mais beaucoup, ou d'orgue de barbarie, très régulièrement dans Paris. Et pour moi, ça, justement, ça fait partie de l'identité de Paris. Je pense que le monde entier connaît les chansons parisiennes, les chansons réalistes. La plus connue, c'est évidemment Piaf, mais il n'y a pas que Piaf. Et que ces chansons-là, je pense que c'est important de les transmettre, parce qu'on a reçu cet héritage, qui est un héritage magnifique, d'un art de la chanson, qui est un art, effectivement, des chansonniers de la chanson tout parisien, et que c'est important de le transmettre. Et que c'est vraiment l'identité parisienne que je pense qu'on doit transmettre aux petits Parisiens, mais aussi aux touristes qui viennent là. Et c'est un moyen, je ne sais pas, puisqu'on est dans une société de plus en plus violente malgré tout, on dit que la musique adoucit les mœurs. Je pense que ça mettrait beaucoup de convivialité sur les places, à chanter ensemble. Quand on se met à chanter ensemble, on sent qu'une harmonie peut se faire entre les êtres humains et entre les personnes, même si on ne pense pas la même chose, et fort heureusement, tout le monde ne pense pas la même chose.
Voilà, et en fait, l'identité parisienne, c'est pas uniquement être de droite ou de gauche, et même, d'une certaine manière, c'est pas du tout être de droite ou de gauche. C'est se reconnaître dans l'amour du métro, le plaisir des trottoirs noyés de pluie et absolument qui luisent sur des kilomètres carrés. Voilà, l'amour des platanes et des grilles qui effectivement ne sont plus autour des platanes et qu'on retrouve vendues dans les salles d'enchères ou sur eBay. Il y a cette atmosphère parisienne, voilà, qui est, on sent que c'est la grande ville dans toute sa splendeur où la végétation apparaît comme une heureuse exception. Et c'est ça que vous voulez rendre aux Parisiens. C'est cette attractivité-là. C'est pas le fait de rendre Paris attractif pour les banquiers d'affaires et les grandes entreprises. Ils y sont déjà. Non, c'est que les Parisiens puissent se réapproprier, comme on le dit aujourd'hui, leur ville et pas juste la subir.
Exactement. C'est retrouver cet amour de Paris et qui passe par redonner aux Parisiens vraiment les outils pour se réapproprier leur ville, qui a tendance aujourd'hui à devenir effectivement une mégalopole. Alors ça, on pourrait discuter effectivement de cette notion du Grand Paris. Je suis pas sûre que moi, à titre personnel, je parle là, ça soit pérenne comme... autrefois, quand on allait à Pantin, à Malakoff, etc., on allait à Malakoff, et c'était très bien, parce que chaque ville aussi autour de Paris avait vraiment une identité. Et au jour d'aujourd'hui, le fait de vouloir comme ça faire des grands mégalopoles, dans le terme il y a, hein, c'est très mégalo, mais en plus, en vérité, et on parle beaucoup d'environnement et de climatologie, c'est en fait contre-productif. Les mégalopoles, en fait, sont pas du tout adaptées au monde de demain, en vérité. Et donc, là-dessus, il faudrait qu'on réfléchisse.
On l'a vu avec l'épidémie, on le voit avec les intempéries. En fait, ces villes que Anne Hidalgo et d'autres grands-mères de grandes villes présentent comme étant l'avenir du genre humain, en fait, non, pas du tout. C'est une concentration insupportable. Et en plus, une gouvernance, comme on dit aujourd'hui, absolument abominable. Parce que le Grand Paris, c'est aussi faire en sorte que chaque maire d'arrondissement s'abandonne au profit du maire de la ville qui lui-même s'abandonne au profit de l'intercommunalité pour quelque chose d'absolument gigantesque. Et on ne sait déjà pas le gérer, on ne sait pas comment on le gérera. Un auditeur de Radio Courtoisie nous dit... Qui est cette personne du RN très intéressante? Voilà. Alors pardonnez-moi, je n'ai pas cité suffisamment souvent votre nom. Je suis en train de recevoir avec plaisir Céline Dupuis-Lagarde, voilà, candidate tête de liste d'Union et de Rassemblement pour Paris 15e arrondissement et qui évidemment fait équipe avec Thierry Mariani. Vous avez dans votre programme, donc voilà, tout ce volant social auquel forcément les Parisiens doivent être sensibles, tout ce volant aussi d'économie où il ne s'agit pas d'avoir cette espèce de gabegie financière permanente. Et parmi ça, il y a aussi la suppression des frais de représentation, des voitures de fonction et des jetons de présence. C'est-à-dire, là, on sent que Paris a été mis un peu en coupe réglée avec des avantages indus accordés aux élus.
Tout à fait, je pense qu'il faut rendre l'argent aux Parisiens après l'explosion de la taxe foncière. Et bah, je le dis d'autant plus que M. Goujon, dans le 15e arrondissement lui-même, voilà, a eu des notes de frais un peu, on va dire, astronomiques et injustifiées. L'utilisation des voitures de fonction pour sa famille à titre personnel. Aujourd'hui, dans une ville qu'on veut plus verte, plus propre, etc., l'usage, il y a une... Là encore, une brigade pléthorique, là pour le coup, à la municipalité, de voitures de fonction et de chauffeurs. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça, ce n'est plus utile, en fait, avec les taxis, etc. On avait un rendez-vous, d'ailleurs, il y a une dizaine de jours, avec Thierry Mariani, avec les taxis sur l'avenir. Et il faut bien qu'on se rende compte qu'on est dans une période de transition et de grands changements, et que la voiture autonome arrive demain, par exemple, et que ça va poser des vraies questions sur le territoire, nous racontaient les responsables des taxis, à juste titre, et nous, élus ou futurs élus, on doit se poser ces questions. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a eu... Les automobilistes sont taxés de manière exponentielle par cette municipalité, avec des tarifs astronomiques du stationnement. Mais demain, quand vous avez une voiture autonome, vaut mieux pas peut-être qu'il sera préférable, en fait, de laisser tourner votre voiture pendant que vous allez 2 heures chez le médecin plutôt que de la garer. Donc on peut se dire, là, on est dans un dysfonctionnement. Il va falloir repenser vraiment les choses de manière concrète, pérenne et pragmatique.
Je vous interromps. Les cars, par exemple, qui viennent à Paris, sont tellement taxés quand ils s'arrêtent que les compagnies de cars préfèrent faire tourner à vide les cars dans Paris qui errent en attendant de revenir au point où ils ont abandonné les touristes pour les récupérer. Ça revient moins cher que de payer les frais de stationnement.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est encore là dans une démarche totalement dogmatique, idéologique. C'est-à-dire qu'on met une chose, on ne regarde pas si ça fonctionne ou pas. En plus, il n'y a jamais comme ça de délai pour et de remise en cause. Il y a des dogmes qui sont imposés et qui sont... souvent contre-productif à la vérité. Et il y a eu un abus, on l'a vu, ça a été dans la presse, et même Philippe Goujon dans le 15e arrondissement, il a aussi donné des marchés publics. Bon, ça, c'est pendant le Covid, tout ça, il y a eu quelques articles, effectivement, sur les marchés publics, sur les masques qui ont été donnés à des gens de sa famille. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est important, vraiment, que les élus soient au service des Parisiens et pas à leur propre service, effectivement.
Alors, dans le fait que les élus soient au service, il y a une chose qui est importante, c'est d'éviter de transformer les associations en clientèle privée du maire, au sens romain du terme, où le patron avait ses clients, autrement dit ceux qui l'arrosaient et qui du coup étaient capables, sur le forum, de huer les adversaires et de soutenir les ambitions de celui qui les nourrissait. Vous dites qu'il faut que les subventions soient réservées uniquement aux associations au service des Parisiens. Quelle association visez-vous, par exemple ?
Il y a beaucoup d'associations, on le sait, qui, dans les subventions, mais par exemple, il y a des associations qui peuvent, je ne sais plus, une des dernières, c'était des ruches ou dans, je ne sais plus...
En Afrique.
Voilà, dans un pays africain. Alors, moi, je trouve ça très louable, mais je ne pense pas que ça soit aux Parisiens de payer pour cela.
C'est-à-dire que des dizaines de milliers d'euros pour qu'il y ait des ruches chez les femmes peules, effectivement.
tout le monde peut créer une association, aller chercher de l'argent pour avoir des projets comme ça et soutenir des projets à travers le monde. Mais quand c'est de l'argent public, il me semble que la responsabilité des élus, c'est que cet argent public soit dépensé à destination des Parisiens, exclusivement des Parisiens. Pareil pour les associations, effectivement, comme vous le disiez, qui sont des associations amies. On se rend compte que tout d'un coup, il y a la femme de monsieur qui, en fait, et touche du coup 50 000 euros par ce qui lui fait son petit salaire et tourner sa petite crèmerie. Il y a un moment donné, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Il faut que vraiment, toutes ces associations, elles soient au service des Parisiens et rien que pour les Parisiens.
Alors, et notamment, je crois que Paris donne à SOS Méditerranée.
Tout à fait.
Voilà, et on se demande en quoi est-ce que Paris est vraiment concerné par les problèmes d'immigration méditerranéenne. Enfin, sinon, évidemment, qu'une fois que SOS Méditerranée a réussi à les faire venir sur le sol français, sans doute remonte-t-il à Paris, ne reste pas dans cette oasis de paix et de prospérité qu'est Marseille, enfin, si on en croit la propagande gouvernementale. Je vais redire votre nom en entier avant qu'un autre auditeur ne m'accuse de taire voilà, le nom de cette personne du RN très intéressante. Donc Céline Dupuis-Lagarde, vous vous êtes lancée en politique à quel moment ?
Bon, j'ai envie de dire que j'ai toujours, moi, été active, mais effectivement jamais au sein d'un mouvement. J'ai toujours fait partie ou de collectifs ou d'associations ou de choses comme ça. Autant à gauche qu'à droite, je dois le dire, hein, à l'international. Par exemple, j'ai été soutenir le mouvement zapatiste, qui est un mouvement autonomiste, en Afrique, par ailleurs, ou dans les pays de l'Est. Moi, j'agis toujours en fonction de... à la fois de ma conscience et par amour aussi, dans le sens avec un amour agapé. Et donc aujourd'hui, je crois que la priorité, c'est effectivement, et c'est pour ça que je reprends cette phrase de Victor Hugo, sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment à une période charnière, que ça soit dans notre ville, dans notre pays, en Europe ou dans le monde, et que... Seul, là pour citer encore Homère, du combat, seuls les lâches s'écartent. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'aller à la bataille si on veut garder la pérennité de notre système social, de notre art de vivre, de nos libertés, de notre culture, de notre civilisation. On n'a pas le choix que de s'engager aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que petit à petit... J'ai pris cette décision qui est effectivement pas forcément une décision facile parce que moi j'ai travaillé dans le cinéma, dans le journalisme, dans la culture, donc c'est des milieux...
Dans le social, effectivement, vous avez parcouru vraiment tous les recoins de la gauche.
C'est des milieux où effectivement on est très vite stigmatisé si on exprime une opinion autre. Beaucoup de gens se taisent d'ailleurs, faut le savoir. Et que il y a une discrimination politique en France aujourd'hui, il faut le savoir, vis-à-vis du Rassemblement National, qui n'est pas du tout, qui est infondée, qui est totalement infondée. C'est-à-dire que moi, je me suis rapprochée du Rassemblement National. J'ai toujours trouvé Marine Le Pen fort intéressante dès sa première apparition télévisée. Et donc, je l'ai suivie au Rassemblement Bleu Marine. Auparavant, moi, j'ai envie de dire que ma bascule, peut-être, parce que je suis plutôt d'une culture adolescente de gauche. J'étais même au lycée autogéré rue de Vaugirard dans le 15e arrondissement, repère de gauchistes s'il le fallait. Pour certains, moi je ne crois pas, je pense que l'autogestion n'est justement ni de droite ni de gauche. Un petit artisan, il est autogéré, une petite entreprise, c'est de l'autogestion. Un entrepreneur, c'est un autogéré, de mon point de vue. L'autogestion, c'est se prendre en main, c'est être autonome, être responsable et se prendre en main. Donc ce n'est pas d'un seul côté de l'échiquier politique, ça traverse tout l'échiquier politique, mais vraiment, là où j'ai ouvert mon esprit justement de ce dogmatisme, je dirais, c'est au moment de Maastricht, justement, où il y a eu l'alliance entre Seguin, Villiers et Chevènement.
Alors, pardonnez-moi, vous étiez très jeune.
J'ai 56 ans, donc non, j'étais pas très jeune. C'est le moment... j'étais... Voilà, j'étais jeune adulte.
Voilà, Maastricht, pour moi, c'est il y a longtemps. Donc, moi qui suis plus vieux que vous. Donc, vous êtes intéressé au Rassemblement National, enfin au Front National à l'époque, à ce moment-là. Et depuis, voilà, c'est un mouvement dans lequel vous vous sentez à l'aise. Et vous vous sentez aussi à l'aise, évidemment, dans le fait d'avoir réalisé cette union des droites sur le terrain.
Bah, on y travaille à la Fédération de Paris. Faut dire qu'on travaille à ce rapprochement de toutes les droites parisiennes et même au-delà des droites, j'ai envie de dire, de tous les mouvements qui sont patriotes et qui ont envie d'agir pour effectivement sauver Paris, sauver la France et sauver le monde, c'est-à-dire d'avancer ensemble avec une bonne énergie, un dynamisme qui fait que on va construire quelque chose et on va bâtir ensemble, et peu importe d'où on vient au Rassemblement National, il y a des gens qui viennent de partout, et moi-même j'en suis l'exemple, mais c'est pour ça que Marine Le Pen dit nous sommes ni de droite ni de gauche, c'est-à-dire que nous sommes de France. Ce qu'on a vraiment envie, c'est porter les espérances des Français, mais peu importe pour qui, j'ai envie de dire, si, parce que qu'est-ce que c'est la différence entre la droite et la gauche? Moi je me suis posé souvent la question, qu'est-ce qui fait qu'on va être plus de droite ou plus de gauche? Moi l'impression que j'ai, c'est que la gauche, c'est l'égalité avant tout, et la droite, la liberté avant tout. Si je faisais un raccourci.
Mais ça me paraît très bien.
Et en fonction des périodes, en fait, et en fonction du contexte, parfois il faut un peu plus d'égalité, mais parfois il faut plus de liberté. Donc, il n'y a pas, je pense que c'est assez compliqué de se dire, mais moi-même, je ne me définirais pas à ce titre-là, simplement de droite ou de gauche. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état du monde, de l'état du pays, du contexte, à des moments, il faut bouger les curseurs. Et les curseurs, parfois, il faut mettre plus de liberté. Quand il y en a trop et que ça devient du laxisme, peut-être que... et parfois, il faut mettre plus d'égalité, etc. Il faut jouer sur les curseurs, il faut s'adapter. L'être humain a cette capacité-là de s'adapter à toutes les conditions climatiques, mais aussi à toutes les conditions sociales. Et donc, l'adaptation... me semble la clé pour qu'on grandisse tous ensemble.
Alors, une adaptation, et justement, pour Paris, on a besoin de quitter une vision idéologique de la ville, une vision idéologique des libertés, de l'égalité, une vision de lutte des classes qui fait toujours un peu rire, puisque quand on voit les avantages dont bénéficie Anne Hidalgo et sa cohorte de fonctionnaires et de conseillers, ils nous la baillent bien belle d'expliquer que le 16e doit accueillir les immigrants quand on voit la manière dont eux-mêmes vivent. Ce refus, en fait, du dogme, c'est ça qui peut-être est véritablement de droite au bout du compte, ce réalisme, le fait de dire que le réel existe.
Tout à fait, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, à droite, on n'a pas peur du réel, effectivement, dans la droite active, j'ai envie de dire, et pas la fausse droite.
Voilà, la droite de responsabilité, la droite de gouvernement, la droite qui vote les budgets définis par le PS sous prétexte de stabilité, voilà, on a compris qui on vise. Céline Dupuy-Lagarde, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir présenté votre livre. Donc je rappelle, retrouvons Paris 15e, vous êtes candidate tête de liste d'Union et de Rassemblement avec l'ensemble des mouvements de droite, y compris la droite populaire et l'Avenir français, voilà, qui sont un peu moins connus que le RN et l'UDR, mais que nous avons reçus, si je ne m'abuse. Je répète, comme vous l'avez cité tout à l'heure, la fin de votre profession de foi, parce que Paris est tout petit pour ceux qui l'aiment d'un si grand amour, parce que nous aimons nos quartiers, notre arrondissement, notre ville, avec vous, je veux rendre à Paris sa fierté, sa beauté, son art de vivre et son rayonnement. Parce que Paris est si grand, sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde. Voilà, le 15 mars, premier tour, le 22 mars, second tour. Et d'ici là, merci beaucoup et vraiment bonne chance dans votre combat. Et surtout, de continuer à le mener avec cette joie, ce sourire qui fait dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes une personne très intéressante.
Merci. Il y a plein d'autres personnes intéressantes au RN que vous pouvez inviter et tous nos candidats, d'ailleurs.
On ne s'en fait pas faute.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Alors maintenant, je dois dire que nous sommes rentrés dans la période justement des municipales et que l'ARCOM demande une équité du temps de parole, ce qui fait que, puisque je vous ai reçu aujourd'hui, il faut que j'essaye désespérément d'avoir des candidats de gauche la prochaine fois. Donc voilà, donc je ne recevrai peut-être pas tout de suite des RN parce que sinon je vais être en déficit ARCOM et c'est une situation évidemment qu'une radio comme Radio Courtoisie ne peut pas se permettre. Merci mille fois Céline.
Merci à vous.